Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. J'ai chaque jour une heure pour vous montrer que oui, la France bouge et que c'est vous qui la faites bouger. Gros plan aujourd'hui sur le mariage. Le secteur, depuis quelques années, dépoussière en quelque sorte la traditionnelle cérémonie. Et nos acteurs français, vous allez le voir, sont à la manœuvre. On va partir aussi à Saintes d'ici 14h, où depuis 5 générations, la distillerie Merlet fabrique des liqueurs et du cognac, bien sûr. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis direction la métropole de Lille, qui développe le label Manger Local. C'est la solution pour des produits de proximité sélectionnés au Trophée de l'Avenir. C'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez la parole. Avez-vous prévu de vous marier? Quel est le service qui vous a manqué peut-être pendant votre cérémonie? Venez donc nous rejoindre, Anissa, témoigner aussi ce midi sur Europe 1.
Bah oui, venez nous parler de vos mariages, de ce que vous auriez aimé avoir. Peut-être que vous avez des idées, peut-être que vous allez repasser devant le maire. 39-21, c'est le standard d'Europe 1. On lit également tous vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Oui, car il y a en France, figurez-vous, 235 000 mariages célébrés par an. C'était le cas l'année dernière, hein. Le chiffre est toujours en hausse, mais... la cérémonie en elle-même a beaucoup changé. C'est ce que nos invités vont s'attacher à vous démontrer aujourd'hui pour les accueillir à mes côtés comme chaque jour. Elisabeth Assayagela, bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Sylvain Lambert de PwC qui participe au trophée Let's Go France. Bonjour Sylvain.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Alors c'est vrai que quand on parle mariage, la robe, eh oui, est un élément central. Et ça n'est sûrement pas Philippe Massé qui nous dira le contraire. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Pronupsia, du groupe Pronupsia. Vous êtes aujourd'hui le leader, hein, faut le dire, de la distribution de robes de mariée. Pronupsia qui existe quand même depuis 61 ans. Et alors, à l'époque, c'était une première parce que quand ça a été créé, il n'y avait pas de magasin de robes, de prêt-à-porter de robes. Il fallait passer chez une couturière.
Tout à fait. Il y avait un monsieur Dumont qui, à l'origine, a trouvé que c'était assez compliqué de se marier. Aller trouver le tissu, la couturière, et qui a eu cette idée de faire la robe de mariée prête à porter pour la première fois et d'ouvrir une première boutique à Paris.
Alors le premier magasin, effectivement, il ouvre à Paris avec ses robes de mariée de prête à porter. Ça va très vite prendre, hein, ce business.
Tout à fait, oui. Le business démarre très bien et le fondateur qui est un visionnaire choisit tout de suite le modèle de la franchise pour développer le réseau et s'en suit une aventure formidable qui sera après suivi par bien d'autres acteurs, qui a créé pas mal de vocations et de faire un vrai marché potentiel de la robe de mariée et également tous les produits et services qui vont autour.
Oui, ça marche bien à tel point qu'en 1980, c'est-à-dire très très vite, il y a 250 magasins Pronupsia ouverts.
Tout à fait, en 1980, Pronupsia avait 250 magasins dans le monde, sur tous les continents, en Europe évidemment, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et aussi en Asie, au Japon. Donc Pronupsia a une très très belle histoire qu'il faut reconstruire désormais, puisque j'ai repris cette grande marque qui est une marque du patrimoine français qui incarne le mariage à la française en 2008.
2008, vous arrivez, mais alors ce que vous ne dites pas et que je vais préciser, c'est que vous étiez déjà vous-même dans le secteur, puisque vous aviez créé le réseau Point Mariage. Donc vous avez décidé tout simplement de regrouper Pronupsia et Point Mariage pour avoir finalement une offre plus importante.
Tout à fait, je suis un peu tombé dans le mariage tout petit, puisque même mes parents étaient fournisseurs de Pronupsia. Et j'ai créé un premier réseau dans les années 96, Point Mariage. Ça a été aussi une très très belle aventure. On a ouvert 50 magasins en 5 ans. On était devenu leader du marché français. On l'est toujours aussi avec Pronupsia. Et l'opportunité de Pronupsia m'a semblé quelque chose de très intéressant, puisque Point Mariage est une enseigne entrée et milieu de gamme. Et le complément d'allier une autre marque qui, elle, avait un grand nom et qui est milieu et premium, était une alternative très intéressante pour ouvrir le monde et ouvrir notre groupe à l'international.
Elisabeth, justement, le marché des robes de mariée, on peut parler d'un marché, hein. Comment est-ce qu'il se porte aujourd'hui ?
Il résiste. Les acteurs traditionnels, comme par exemple Pronupsia, mais aussi Point Mariage ou Cymbeline, par exemple, E3, ils ont réalisé 230 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, mais les experts disent que
ça va baisser. Pourquoi ? Eh bien parce que les marques de prêt-à-porter viennent de plus en plus grignoter sur les plates-bandes de ces acteurs traditionnels. Tiens, par exemple, ce matin, je me suis connectée sur le site H&M.com. J'ai fait une petite recherche de robes de mariée. Et là, je me suis retrouvée avec 4 propositions de robes de mariée, très jolies, hein, en coton, polyamide, viscose, dentelle. Elles sont comprises entre 179 et 199 euros. Vous en avez sur Amazon à tous les prix. Ça commence à 60 euros, il y en a à 130 euros. Monoprix aussi a par exemple invité Alexis Mabille à créer des robes blanches vendues entre 150 et 280 euros. Ou encore une petite marque française, Sessoun, qui a lancé en 2015 la ligne de robes de mariée. Oui.
Alors justement, comment est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, pour résister ? Vous êtes arrivé aussi sur ce marché du digital. Hein. Vous avez pris le tournant Internet aussi avec Pronupsia et avec Point Mariage.
C'est vrai que certaines marques, à des moments donnés, font des collections par capsule sur le mariage. Et c'est souvent plus des effets de communication qu'une vraie volonté, parce que la robe de mariée est quand même un métier de spécialiste avec un service très important. Et on ne peut pas s'improviser comme ça du jour au lendemain pour vendre des robes de mariée. Et nous avons un enjeu, c'est vrai, demain, nous avons un enjeu comme le business de retail en général. Et ce que j'aimerais faire avec Pronupsia, ce qu'on a commencé à faire, qui est le projet d'avenir, c'est de faire Pronupsia un Amazon de la robe de mariée, comme vous disiez
très
tout
bonne
à
idée.
L'heure.
Devenir le portail finalement du mariage.
On a une marque qui est très forte, qui est connue dans le monde. On a l'image du mariage à la française. On représente le romantisme en France et c'est une vraie opportunité pour nous de faire de Pronupsia une marketplace produits et services en France et aussi à l'international.
Ouais, ça veut dire un important changement de business model. Que dit notre coach justement, Sylvain ?
Oui, mais justement, je voulais rebondir sur le fait, vous l'avez dit, c'est presque une marque du patrimoine national, hein. Pronupsia, tout le monde le connaît, il y en avait presque un magasin par département. Mmh. Vous parlez de cette évolution à l'international, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un mariage à la française ou est-ce qu'on a aussi un mariage à l'allemande, un mariage à l'anglaise ? Et si oui, est-ce que le mariage à la française est le modèle dominant ?
Bien sûr, on peut parler d'un mariage à la française, on a un atout formidable, c'est que la France, c'est le pays du romantisme. C'est aussi le pays de la mode. C'est pas le seul pays de la mode, mais c'est quand même un des grands pays de la mode. Donc on a un atout à représenter qui est très important. Et ces atouts, on doit les vendre à l'international. On a toute une histoire à raconter autour du mariage pour les pays émergents et pas seulement.
On va continuer à la raconter justement, cette histoire du mariage ensemble aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h08.
Europe 1. Quand on convole en juste noce, il y a aussi la liste de mariage. Mais elle a pris un sacré coup de jeûne, parce qu'il fallait, c'était nécessaire, ça a beaucoup évolué. Et le printemps y est probablement pour quelque chose. À tout de suite sur Europe 1.
Et puis Raphaël, je vous rappelle que ce soir, Mathieu Béliard invite les auditeurs d'Europe 1 à participer à son grand journal du soir. Vous allez pouvoir débattre avec Mathieu Béliard et ses invités. Émission spéciale en direct du studio Belmar à partir de 17h et jusqu'à 20h. Pour vous inscrire, europe1.fr. On parle de mariage aujourd'hui, la France bouge, on se marie en bleu, blanc, rouge avec vos invités, Raphaël Duchemin. N'hésitez pas à venir participer à cette émission, parlez-nous de votre mariage, de ce qui vous a manqué, des idées que vous avez peut-être pour votre futur mariage. On attend vos messages, vos réactions, 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
La plupart des couples qui se sont dit oui ont tous hérité d'une liste de mariage parce que les amis, les cousins, les proches veulent faire des cadeaux. Avant, c'est vrai qu'il y avait la vaisselle, le linge de maison, mais plus le temps passe, plus le concept évolue. Bonjour Karine Massard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la responsable printemps liste et printemps mariage. Au Moyen-Âge, les cadeaux, ils étaient déposés chez les parents. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Hein. On dépense combien aujourd'hui quand on vient faire une liste de mariage chez vous, par exemple au printemps ?
Alors, il y a des évolutions au niveau des listes. Déjà, tout d'abord au printemps. On a décidé depuis 3-4 ans, de relancer la liste de mariage et surtout de s'adapter aux nouveaux comportements de nos futurs mariés, puisque l'ère digitale est arrivée, l'arrivée des pure players, et on a lancé le printemps à innover, à lancer un nouveau concept d'une liste appelée la 50-50 avec un pure player leader sur le marché.
C'est-à-dire qu'on choisit tout sur Internet, un pure player.
Le pure player, tout à fait. Et l'idée, c'était de proposer vraiment un concept innovant, exclusif, facile. Et cette liste 50-50, c'est un concept où vous récupérez 50% du cash sur votre compte bancaire et les 50% restants sont à dépenser en magasin. Ce qui permet vraiment de proposer cette liberté, de proposer du choix, de proposer une facilité grâce à l'Internet de pouvoir tout faire en ligne. Une facilité pour les invités, une facilité pour les futurs mariés.
Vous avez choisi de travailler avec Zenqiu. Sont des Espagnols. Il y avait des équivalents français. Qu'est-ce qui vous a poussé à le choisir, lui, plutôt qu'un autre ?
Ce qui nous a poussé à travailler et à développer ce concept exclusif avec Zenqiu, c'est déjà le leader sur la liste de mariage. On a étudié, on avait fait un benchmark sur tous les partenaires. Zenqiu est déjà un annuaire. Il y a plus de 50 000 mariages inscrits sur des futurs mariés inscrits sur leur portail. Et ils sont présents dans 23 pays. Et surtout, l'atout de Zenqiu, ils sont très habiles, une agilité pour répondre sur tous les outils pour créer son site personnalisé, pour créer tous les services proposés à nos futurs mariés.
La liste de mariage et le printemps, c'est une vieille histoire. Hein. Ça date des années 60,
Ça a été lancé en 1958, la liste un peu traditionnelle du grand magasin. Et le printemps... qui veut toujours être en avance, avoir cette image de prescripteur. On a vraiment décidé d'étudier ce marché et il fallait innover. Et on continue de plus en plus à répondre à cette communauté qui nous oblige à aller assez vite, parce que le marché bouge énormément et cette notion de cash est un élément très important et apprécié.
C'est quelque chose qu'on vous demande, comme à un moment donné, on est venu vous demander du voyage plutôt que de la vaisselle.
Alors le voyage reste un poids très important, la maison est un focus aussi très important, mais la notion du cash, la notion de cagnotte, ça prédomine. Et le printemps a senti ça en 2011-2012 et on s'est dit, il faut aller vite.
Que dit notre coach, Sylvain Lambert ?
Justement, toujours pour rebondir, quelles sont les principales tendances ou nouvelles demandes ? Vous nous parliez du cash, est-ce qu'il y a des choses complètement nouvelles ? Les couples qui parfois se marient sont déjà équipés. Donc qu'est-ce qui prédomine au-delà du cash ? Et puis, petite question annexe, est-ce qu'il y a des nouveaux sujets, par exemple ? C'est cette occasion du mariage de penser à des gestes de solidarité. Peut-être des gens pourraient vous poser des questions. Est-ce qu'on peut contribuer à une cause grâce à ce que vous pouvez proposer ?
Alors, on peut voir un développement de listes éco-responsable, mais ça reste quand même assez minime. Mais la volonté comme des futurs mariés, c'est d'avoir cette liberté de se faire plaisir pour n'importe quel moment de sa vie. Et c'est surtout aussi de pouvoir récupérer un peu de matériel. Alors certes, le voyage est un élément important, mais d'avoir un beau canapé, d'avoir de la vaisselle, reste aussi des éléments importants.
Elisabeth, à part le printemps, il y a qui comme leader sur ce marché des listes
Alors,
de mariage ?
Sur le même trottoir que le printemps, on a les Galeries Lafayette avec 1001 listes. Vous avez Amélist qui a été fondée en 2006. C'était l'un des tout premiers en ligne. Petit mariage entre amis, ça c'est une plateforme qui permet de créer son site de mariage entièrement personnalisé avec la liste inclus. Ou encore, vous en parliez tout à l'heure concernant les listes un peu qui ont du sens, j'ai envie de dire. Vous avez Wedzom. Wedzom, c'est une liste participative avant le mariage pour permettre aux invités d'aider les mariés justement à financer ce mariage.
Comment est-ce que vous faites, et l'un et l'autre, j'ai envie de dire, chacun dans votre secteur d'activité, pour vous adapter à ce besoin qu'on sent vraiment très fort aujourd'hui en France et ailleurs de personnalisation. On a vraiment envie d'avoir quelque chose de fait sur mesure, de pas cher forcément, mais qui nous ressemble. Est-ce que c'est quelque chose d'abord que vous sentez dans la robe de mariée et aussi dans la liste de mariage, Philippe Massé ?
Oui, bien sûr. L'expérience client, c'est quelque chose de très important. On se doit d'accompagner la cliente au mieux. La jeune fille qui se marie, ça va être sa journée. Elle va être regardée de tous. Donc, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de voir qu'elle est entre de bons professionnels qui vont faire d'elle la princesse du jour.
Même question pour vous, Karine Massard.
Au printemps, notre stratégie, c'est vraiment de pouvoir répondre à tout ce rétro-planning du mariage et de pouvoir chouchouter notre futur marié, le couple, et de proposer des services, de proposer des avantages premium. De plus en plus, il faut de la personnalisation. Et nos mariés au sein du printemps peuvent trouver tous les postes clés, que ce soit la joaillerie, que ce soit les tenues du marié, que ce soit la beauté. Et de plus en plus, on veut proposer des services uniques
sur mesure,
et, voilà,
oui.
et du sur-mesure.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Elisabeth ?
Oui, chez Pronupsia, vous parliez de la jeune fille, mais l'âge du moyen du mariage est quand même de 36 ans pour les femmes. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à revoir. Là, au printemps, vous parlez des mariés, mais à 36 ans, on n'a peut-être pas les mêmes envies oui. que lorsqu'on en a 20 ou 23.
Oui, ceci 25. Explique cela, hein, ce besoin
sûr,
peut-être de personnalisation.
À travers les collections aussi, on a toujours des modèles princesses, mais on a aussi des choses qui sont plus faciles à porter. Évidemment, l'âge des mariés aujourd'hui nécessite qu'on
s'adapte et qu'on a peut-être besoin plus justement de personnaliser son mariage que lorsque l'on en a 20 ans.
Peut-être bien. On va continuer en tout cas à parler mariage aujourd'hui sur Europe 1.
Et il est 13h19.
Europe 1.
Avec une autre mode, celle du wedding planner qui a gagné la France à tel point qu'aujourd'hui, il y a même une école pour apprendre le métier. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, on s'intéresse au mariage à la française avec les entreprises bleu, blanc, rouge, bien sûr. Vous pouvez témoigner et nous rejoindre au 39-21.
De plus en plus de couples font appel à ce que l'on appelle un wedding planner pour gérer l'événement de A à Z. Et le business marche si bien que désormais, une école a été créée. Bonjour Jaël Petit-Fournier.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur des écoles Jaélis. Cette mode, dites-moi, on peut parler de mode hein, d'ailleurs, de phénomène en tout cas, du wedding planner, elle nous vient des États-Unis où c'est en vogue. Et pourtant, je crois que vous avez fait des recherches parce que ça vous a titillé quand vous êtes rentré d'Amérique. Vous êtes aperçu que finalement, c'était nous les Français qui avions peut-être inventé ce métier.
Exactement. Les États-Unis l'ont développé, on en fait un métier d'aujourd'hui, mais l'origine historique vient du XVIIe siècle avec les maîtres menus plaisir.
Et, à Versailles.
À Versailles, tout simplement. On peut d'ailleurs visiter encore aujourd'hui le bâtiment des maîtres menus plaisir. Louis XIV avait l'habitude de beaucoup les utiliser pour ses fêtes, parce que ces maîtres menus plaisir avaient pour objectif d'organiser les cérémonies, les bals et les mariages des gens de la cour. Et un des plus connus est Papillon de la Ferté. Il est d'ailleurs tagué sur une boîte devant le pavillon des maîtres menus plaisir qui est en face de Versailles, qu'on peut visiter.
Alors du coup, vous rentrez des États-Unis, vous faites cette découverte et vous vous dites « mais il faut absolument relancer cette activité » ou en tout cas la remettre au goût du jour, la moderniser. On est quoi, en 2003 ?
À peu près, tout à fait. On s'est renseigné déjà s'il y avait des structures telles que des écoles ou des centres de formation.
Ça n'existait pas ?
Il n'y en avait pas. Il y avait des wedding planners qui venaient des États-Unis ou des wedding planners français qui proposaient des formations de quelques jours, mais pas des formations d'un an qui permettaient d'en faire un vrai métier. Et d'offrir.
Et vous créez un centre à cette époque-là.
Exactement, un premier centre de formation.
Puis en 2009, vous allez plus loin, parce que là, vous faites appel au ministère du Travail et vous obtenez, c'est important, la toute première certification. Qu'est-ce que ça change finalement pour vous et pour les gens qui viennent vous voir ?
Alors, ce n'est pas en 2009, c'est en 2015.
2015, pardon.
Pour ce type, puisqu'on apprend à d'autres formations. Mais pour la formation de wedding planner, effectivement, ça nous apporte déjà une certaine reconnaissance. Une employabilité. L'État et la CNCP nous a octroyé cette reconnaissance, et également la FNOR, c'est parce qu'on a une bonne employabilité et on a un sérieux dans notre process pédagogique.
C'est vous qui faites les démarches pourtant, pour que le métier soit reconnu
Entre autres, avec mon épouse, qui est la cofondatrice, Lily Lemaître, qui elle est en charge plus de l'administratif. Mais on travaille depuis très longtemps pour faire reconnaître effectivement ce métier.
Alors, qu'est-ce que fait exactement un wedding planner ? Quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour devenir wedding planner ?
Alors, un wedding planner, pour faire une métaphore, c'est un peu comme un chef d'orchestre. Il doit être au courant effectivement de tous les prestataires du mariage et tout opérateur événementiel. Et il a pour objectif numéro un d'organiser partiellement ou en totalité le mariage d'un couple. C'est un chef de projet événementiel spécialisé dans les événements privés, entre autres le mariage. Donc, on lui demande d'être très organisé, d'avoir une grande connaissance de tous ses futurs prestataires. Et d'avoir une grosse culture générale parce qu'il rentre dans l'intime, il rentre dans les familles. Donc voilà.
Que dit notre coach ?
Il y en a combien en France des wedding planners ? C'est une grande profession, vous avez une idée aujourd'hui ?
C'est un chiffre où il y a beaucoup de divergences dessus. On estime à peu près à entre 1000 et 1500 wedding planners en France.
Mais vous en avez formé combien aujourd'hui ?
Alors nous, on en forme à peu près 50, une cinquantaine par an, certifiés. Et pour nous, on est à la tête du plus gros réseau français de wedding planners. Et on a à peu près 200 wedding planners répartis dans toutes les régions et en Europe.
Alors justement, je crois qu'Elisabeth a mené l'enquête. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme chiffre ?
Alors en termes de chiffres, oui, moi je suis autour des 800 000 entreprises en activité. Alors qu'en 2002, hein, les wedding planners, ça se comptait sur les doigts d'une main. Donc, carrément. Aux États-Unis, c'est 80% des mariages se font avec des wedding planners. Ici, on est encore à 2-3% à peine. Hein, ça va se développer. Hein, en tout cas, on y croit. Pour les prix, alors certains fonctionnent au pourcentage, entre 10 et 20% du coût total du mariage. Mais alors, pour des mariages super luxe, ça peut flamber. Hein, on a des fourchettes de prix très larges. Vous avez des formules facturées entre 12 000 et 30 000 euros pour des budgets de mariage, compris par exemple entre 130 000 et 400 000 euros. On est toujours autour des 10%, 10, 20% de la totalité du mariage.
Et en dehors du wedding planner, on a aussi tout un tas d'autres entreprises qui gravitent.
Il y a plein de petites entreprises,
on n'y pense pas forcément.
Mais oui, qui se développent. J'en ai trouvé une. C'est Winding, W-I-N-E-2-D-I-N-G. Ça, c'est pour ne plus choisir du mauvais vin lors du mariage, le vin qui est très important pour les mariés. Cette entreprise propose des coffrets de dégustation pour choisir les vins adaptés au menu et au budget des mariés.
On reste ensemble, on continue à parler mariage aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h26.
Europe 1.
Et on vous attend, 39-21, venez nous dire de quelle cérémonie tiens vous rêvez ou si vous trouvez que le mariage a beaucoup changé. Nos invités vont vous répondre. À tout de suite, c'est la France qui bouge.
La France bouge sur Europe avec Raphaël Duchemin et ses invités qui nous font découvrir les entreprises françaises derrière les organisations de nos mariages. Vous pouvez participer à cette émission, n'hésitez pas, 3921 et hashtag Europe 1 sur Twitter.
Nous sommes avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne dans cette émission, avec notre coach Sylvain Lambert aujourd'hui et puis avec nos invités Philippe Massé, PDG de Pronupsia, Karine Massa, responsable Printemps-Liste et Printemps Mariage, et puis Jaël Petit-Fournier, cofondateur des écoles Jaëlis qui sont des écoles de wedding planner. Alors j'ai une question qui nous a été posée au 39-21 pour vous, Philippe Massé. Ouais. C'est Sonia du Val-de-Marne qui nous dit « Ma fille a acheté une robe de mariée pronuptia. Je pense que ce n'est pas bien de faire du Amazon, dit-elle, avec les robes pronuptia parce que cela risque de décrédibiliser sa marque. Cela repose sur l'expertise de personne et je ne trouve pas ça bien que cela soit comme du prêt-à-porter. Je pense qu'elle fait référence à notre discussion tout à l'heure où vous avez évoqué l'avenir et la marque place que vous aimeriez créer.
Bien sûr, le mariage reste un métier avec une grande noblesse. Ce que j'entends par faire une marketplace, c'est réunir, se servir de notre marque, du mariage à la française, pour autour proposer d'autres services, un peu à la manière du wedding planner, mais d'une manière différente, de réunir les services qui sont autour, mais aussi d'amener d'autres collections sur le marché européen et nous aussi de pouvoir exporter plus facilement nos marques à l'international.
Être une sorte de porte d'entrée pour le mariage, en quelque sorte.
Tout à fait. Et aussi du conseil pour les mariés, pour organiser leur mariage.
Sylvain ?
Oui, moi j'ai une question. Pour les trois, on a beaucoup parlé de mariage. Alors il y a le mariage traditionnel, robe de princesse. Et puis aujourd'hui, on a des mariages civils, on a des pacs. Et est-ce que les sujets dont on parle, que ce soit des listes, que ce soit des robes, ou que ce soit d'ailleurs des wedding planners, aujourd'hui répondent aux nouvelles formes de mariage qu'on peut avoir, c'est-à-dire est-ce qu'on voit des gens qui font un pax, par exemple, qui prennent un wedding planner, ou qui vont prendre une robe ou quelque chose, ou qui vont faire une liste. Voilà. Donc ça s'adresse un peu aux trois.
Alors, qui a envie de répondre ? Karine Massa ?
Oui. Alors nous, au niveau du printemps, on développe ce service de liste pour le pax, et on en a chaque année. Ça reste moins important que nos listes de mariage, mais pour le pax, on peut proposer notre liste 50-50, et c'est un service qui est très apprécié. Et on communique dessus, et ça reste une solution toujours intéressante pour les futurs mariés.
Même chose chez vous, je suppose,
Pronupsia. En ce qui concerne la robe de mariage, le pax.
Est-ce que vous avez des tenues
non,
pour...
Non, pas de tenue spécifique.
Pas encore, peut-être que ça va venir.
Certains, dans le cadre du pax, s'habillent en robe de mariée, mais c'est quand même assez peu. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que les femmes, en général, continuent de rêver de se marier. beaucoup de femmes aimeraient, qui vivent avec le pacte ou en concubinage, aimeraient se marier, et qu'il y a une vraie volonté. C'est dommage que les hommes ne demandent plus suffisamment ces dames en mariage. Et parce que les femmes rêvent toujours de se marier.
Oui, le genou à terre et tout et tout.
Exactement.
On dit wedding planner, mais ça marche aussi pour le PACS ?
Oui, alors avant tout, c'est des organisateurs événementiels privés. Donc effectivement, que ce soit des mariés du même sexe, des PACS ou des mariages insolites, le wedding planner est là pour avant tout organiser une fête et veiller à ce que ça se déroule bien.
Elisabeth ?
Justement, depuis la possibilité du mariage entre personnes de même sexe, du mariage pour tous depuis 2013, est-ce que parmi vous, les demandes ont-elles changé ? Est-ce qu'il y a eu un changement dans l'organisation des mariages, dans les demandes plus précisément ?
Ah, bonne question.
Alors, j'ai souvent cette question-là de la part du journaliste. Il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu de grand boom attendu.
De changement, tout simplement.
Non, parce qu'ils n'ont jamais attendu le fait de se marier à la mairie pour faire la fête. Ils ont toujours fait appel, soit déjà des organisateurs, ou organiser eux-mêmes la fête. Donc, il n'y a pas eu de boom attendu. Et on le voit dans les chiffres, il n'y a pas de grande révolution.
Anissa, je crois qu'on a des questions sur Twitter.
Oui, il y a une question de Justine sur Twitter avec le hashtag Europe 1, effectivement, à Karine Massard qui parlait tout à l'heure de liste éco-responsable. Elle voudrait juste savoir ce que c'est qu'une liste éco-responsable.
Oui, alors, qu'est-ce que ça regroupe ?
Ça regroupe une liste pour soit pour une association, soit pour un projet
humanitaire.
Ça reste quand même très anecdotique. Nous, au niveau du printemps, on n'a pas encore développé cet univers-là, mais on réfléchit. Ça reste une niche, mais pour l'instant, notre force est vraiment de capitaliser sur cette notion de service. Et déjà, avec la 50-50, on capitalise sur l'offre qu'on peut proposer à travers tous les univers au niveau du printemps.
Sylvain ?
Et juste sur ce sujet, est-ce qu'il y a des demandes sur ce que l'on choisit ? C'est-à-dire, je vais prendre des objets, mais j'aimerais être sûr que, sans qu'ils soient forcément éco-responsables, mais être sûr qu'ils n'ont pas fait, je ne sais pas, travailler des enfants ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose qui émerge ? Parce que le sujet est classique dans la distribution, mais est-ce que sur ce sujet précis, on l'oublie quand on se marie, ça émerge ou alors rien ?
Non, on n'a pas spécialement de demande sur le sujet. Ça reste quand même assez anecdotique pour nous concernant nos futurs mariés. Je pense que c'est un sujet qu'il faut effectivement regarder de près et c'est notre rôle d'être dessus.
Je parlais tout à l'heure de la mode du do it yourself. Je fais référence par exemple à Neutrex qui nous écrit sur Europe 1, faire par soi-même, tout le monde n'a pas par exemple le budget pour se payer un organisateur. Ce sont des choses que vous entendez aujourd'hui de plus en plus.
Alors nous, on le rencontre beaucoup dans les préparatifs, c'est pour cette raison qu'on met aussi en avant plusieurs prestataires en tant que fleuriste. On sent que nos mariés, hein, cette communauté qui aime créer, qui déniche, d'où l'importance aussi des réseaux sociaux. Nous, on a lancé notre Instagram et on a constamment des demandes de savoir comment on peut trouver tel fleuriste pour faire des couronnes. Et on le voit aussi à travers nos événements en magasin, cette affluence de ces futurs mariés pour trouver des petites choses qu'on déniche. Elles veulent vraiment l'unique et que ça soit assez rare.
Il y a des choses qu'on accepte. Ah, on est dans le noir, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça va sûrement revenir. Il y a des choses qu'on délègue à un wedding planner et il y a des choses qu'on préfère faire seul ou pas.
Exactement, on n'exclut pas. Si les mariés veulent participer à la décoration ou un élément de leur mariage, on les inclut, aussi bien les gens de la famille. Et on fait plutôt appel aussi à des wedding designers pour tout ce qui est décoration, c'est des corps de métier assez différents. Le wedding planner est vraiment autour de l'organisation.
Sylvain ?
Est-ce que c'est un métier à temps plein, wedding planner ? On va peut-être me dire que pour certains, oui, pour d'autres, non. Mais est-ce que je peux décider de devenir wedding planner et je vais en vivre ? Bien, pas bien ? Vous évoquiez d'ailleurs des chiffres importants sur la part, mais le mariage moyen en France, ce n'est pas non plus 100 000 euros. Donc, est-ce que je peux en vivre ?
Tout à fait. Alors, il faut savoir plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'effectivement, les mariages de saison tendent à disparaître un peu. La meilleure période, même en termes de coûts, va plus être sur l'été indien, ce qui est septembre-octobre, et il y a une grande tendance des mariages hivernaux. Donc effectivement, ces organisateurs de mariages sont déjà absorbés beaucoup par des opérateurs événementiels comme des loueurs de salles, donc deviennent salariés aussi. Il y a une grande tendance depuis 2 ans, et c'est vrai que c'est quelque chose qui tend à s'étaler dans l'année. Maintenant, ça reste principalement concentré sur l'organisation de mariages pour le mois de juillet.
On espère qu'on vous aura donné envie de passer devant monsieur ou madame le maire. Merci à tous les trois d'être venus.
Merci. Merci.
Aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1.
Si je vous dis cognac, si je vous dis tradition, deux mots qui collent à la peau de la maison, la distillerie Merlet, c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
Et la France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et il est temps, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien aujourd'hui.
Et cette entreprise, Anissa, eh bien, elle existe depuis 1850. C'est la distillerie Merlet. Bonjour Luc Merlet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez cette belle entreprise avec votre frère. Vous êtes la cinquième génération. Racontez-moi, comment est-ce qu'elle est née au départ, cette distillerie? C'était uniquement pour le cognac?
Oui,
c'est Firmin Merlet, hein, c'est ça, qui démarre l'aventure.
Alors, c'est deux frères déjà à l'époque. Donc, c'était Vivien et Firmin Merlet. Donc, nous, on est à la base une famille de viticulteurs avant ça. Et donc, très traditionnel, terrien. Et ces deux frères se sont mis à distiller du cognac en 1850.
Logique, puisqu'on est en Saint-Onge.
Voilà.
Du côté de Saint-Sauvent.
Exactement. Pendant très longtemps, on a été une distillerie assez classique, assez traditionnelle. Comme le négoce du cognac est structuré, où il y a des négociants, il y a des distillateurs et des viticulteurs. Et donc, on était intégrés dans cette chaîne en tant que distillateur pour fournir le grand négoce. On a été pendant très longtemps affiliés à la maison Hennessy. Donc, tout ce qu'on produisait, on le revendait en exclusivité. Petit à petit, la société a évolué. C'est mon père qui a un peu opéré une révolution lorsqu'il a repris la distillerie dans les années 70.
Dans les années 70, oui.
C'est ça.
Qu'est-ce qui fait qu'il a envie justement de faire un peu la révolution?
C'est un peu la force des choses.
Il y a eu quelques difficultés dans le domaine.
Exactement. Le négoce du cognac était en crise à cette époque-là, avec crise économique des années 70. Une production qui avait augmenté parallèlement. Donc on s'est retrouvé avec une surproduction dans la région de raisins. Donc pour lui, c'était un peu aberrant de dépendre uniquement d'un produit dans ce contexte-là. Ce qui l'a amené à essayer d'expérimenter diverses choses, une diversification agricole notamment.
Alors il est le premier d'ailleurs, je crois, à coopérer dans la région avec des entreprises qui font de la vente de jus de raisin.
Oui, il a été initiateur d'un négoce de produits vinicoles, des jus de raisin, puis des vins de table, sont des choses à faible valeur ajoutée, mais qui permettaient néanmoins de d'écouler ses excédents. Puis s'est tourné vers d'autres choses aussi.
Oui, c'est là qu'il commence à faire du cassis.
Exactement, du cassis, une récolte qu'on connaît plutôt en Bourgogne, qui est très connue en France.
Pour
la fameuse crème de cassis. Et il y avait un besoin à cette époque-là pour produire des fruits de qualité. Alors il s'est lancé là-dedans. Finalement, il s'est dit pourquoi ne pas vu que j'ai déjà un pied dans l'alcool, pourquoi ne pas faire ma propre crème de cassis. Donc c'est ce qui l'a amené au début des années 80 à faire la crème de cassis Merlet. Et ça a été pour nous le début
d'une autre aventure,
de notre marque familiale par cette crème de cassis.
Alors depuis, vous avez étendu la gamme de produits, vous avez même créé vos propres boissons comme Hypnotique, hein, vos propres cocktails.
Oui, alors Hypnotique, c'est une grande aventure, ça c'est pas une marque qui nous appartient, ça a été fait sur demande. C'était un entrepreneur américain au début des années 2000 qui souhaitait faire une liqueur moderne à base de cognac qui soit un peu flashy aussi, pour s'attaquer au marché notamment des Afro-Américains aux États-Unis, des rappeurs, etc., qui étaient déjà friands de cognac. Et puis ce produit, il est venu nous voir. Mon père était un peu sceptique, mais néanmoins, comme c'est quelqu'un de curieux et d'un peu aventureux, il a voulu s'essayer. Et il pensait que ça ferait peut-être maximum 10 000 caisses sur une année. Et finalement, en l'espace d'un an, ça faisait 200 000 caisses de 9 litres aux États-Unis et c'est monté jusqu'à 500 000 caisses. Donc, on a été complètement submergé par ce produit et ça a complètement changé la face de l'entreprise.
Et l'entreprise, aujourd'hui, elle produit combien de produits différents et combien de bouteilles?
Alors aujourd'hui, on embouteille un peu plus de 6 millions de bouteilles par an. Et on fait des produits aussi diversifiés que
des liqueurs,
du cognac. On fait du vin, des apéritifs à base de vin, du cognac, maintenant sous notre propre marque aussi. Donc même du rhum et du whisky.
Que dit notre coach, Sylvain?
Justement, dans tout ça aujourd'hui, on a vu qu'à un moment, le marché des alcools comme le cognac était descendu. Aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles tendances qui apparaissent? J'ai vu que vous aviez lancé un séminaire bouilleur et bartender. Est-ce que ça aide à faire apparaître et justement ces produits très nouveaux où on revient à des choses très classiques?
Il y a eu un grand phénomène dans les années 2000 qui a été l'essor de la culture cocktail, qui est très ancienne, mais qui est revenue au goût du jour. Et tous ces produits de tradition qui étaient comme des liqueurs de fruits, du cognac ou des alcools très traditionnels, qui étaient devenus un petit peu has-been, sont revenus, ont été remis au goût du jour, puisque comme des cuisiniers, des barman aiment des choses qui soient vraiment des produits de qualité, qui soient de tradition aussi. Et donc nous, on a un peu surfé là-dessus grâce à nos liqueurs de fruits et nos cognacs. Et donc ça permet de changer l'image de ces produits de tradition.
Vous travaillez de plus en plus avec des mixologues, je suppose. Et vous avez aussi votre concours hein, de barman.
Oui, alors on a fait ça pendant 6 ans. On avait lancé une compétition de cocktails qui s'appelait Sidecar by Merlet. Le Sidecar, c'est un vieux cocktail à base de cognac. Cognac triple sec, jus de citron. Comme on a dans notre gamme de produits un cognac et un triple sec, voilà, on a fait ça 6 années d'affilée. Et puis voilà, on a voulu passer à autre chose justement, continuer à faire vivre et être innovant. Donc on a lancé des séminaires qui s'appellent justement l'Atelier Merlet, Brewers and Bartenders, qui est un séminaire autour du cognac où on se déplace dans les différents pays. Leur fait une thématique autour du cognac, sur la production, mais aussi sur les cocktails au cognac, ce qui permet d'être éducatif, leur apprendre les racines du produit et comment l'utiliser. Et à côté de ça, on fait une petite compétition de cocktails où ils peuvent mettre en avant les produits.
Dernière question, vous avez combien d'alambics aujourd'hui?
On a 10 alambics dans la distillerie. Et le cognac aujourd'hui ne représente, on va dire, qu'environ 20% de notre activité. On fait beaucoup de choses à côté aussi.
1850, c'est la distillerie Merlet. C'est l'entreprise qui va bien. Merci. Merci d'être
Merci
venu
beaucoup.
Nous en parler
Merci.
Aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1. Manger local, on en a tous envie. La métropole lilloise saute le pas et crée un label. C'est la solution sélectionnée au Trophée de l'Avenir. A tout de suite.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, elle va nous permettre de mieux manger.
Les trophées de l'avenir, je vous le rappelle, ils vont avoir lieu très bientôt. Ce sera le 11 février. Aujourd'hui, on va partir pour Lille, Elisabeth, une initiative qui entre dans la catégorie collectivité locale lors de ces trophées.
Exactement, il s'agit d'un label qui a été mis en place depuis à peine un an par la métropole européenne de Lille. Ce label qui s'intitule « Je mange local ». Il valorise l'approvisionnement local dans les cantines, dans les écoles, des collèges, des lycées ou encore dans les hôpitaux. Au total, aujourd'hui, 182 établissements se sont engagés à utiliser des produits locaux au menu de leur cantine. C'est le département du Nord ainsi que la région des Hauts-de-France qui sont à l'origine. Vous l'avez compris, l'enjeu est immense pour ces territoires.
Bonjour Bernard Delaby.
Bonjour.
Merci d'être Merci. Avec nous. Vous êtes le vice-président de la métropole européenne de Lille en charge de l'agriculture. Manger local, on en parle tous hein, chaque jour. Comment est-ce qu'on décide d'agir, de passer à l'action au sein même d'une région?
Bah, écoutez, pour la métropole européenne de Lille, c'était le constat d'avoir une métropole très agricole, une des premières métropoles agricoles de France. 50% de son territoire est encore agricole, 90 communes, donc avec 800 agriculteurs sur la métropole. Ça paraît pas, quand on parle de la métropole européenne de Lille, on pense que c'est très urbain. C'est vrai qu'il y a 1 million d'habitants, donc un potentiel important pour manger et manger bien. Et donc c'était tout naturellement qu'on a décidé d'accompagner les communes, à la restauration collective et à l'approvisionnement local dans les restaurations.
Alors 182 hein, établissements se sont engagés. Oui. Dans l'assiette, qu'est-ce qui est local? C'est quoi? C'est 100% des produits?
Alors,
quels sont les choix?
On vise 70% des produits en local.
Ce qui est déjà énorme.
En tout cas, la région, le département du Nord, c'est ce que l'on vise nous aussi. Aujourd'hui, le label a 3 niveaux. Un premier niveau, un deuxième niveau et le troisième niveau avec 40% d'approvisionnement local et du bio voilà, dans nos assiettes. C'est apporter à nos enfants et à nos personnes âgées, à ceux qui viennent en restauration collective, des produits locaux, de saison et des produits durables.
Alors comment se passent les approvisionnements? C'est quoi? Vous facilitez-vous les rencontres entre les acheteurs, les vendeurs? Quel rôle vous avez?
Alors oui, on a d'abord passé par de la sensibilisation, expliquer aux communes l'intérêt d'avoir des approvisionnements locaux et Voilà, quand vous avez à vos portes des agriculteurs qui vous produisent des carottes, des fraises, si c'est la saison des fraises, puisque l'objectif c'est aussi d'avoir dans son assiette des produits de saison, eh bien tout naturellement, on incite les communes et on les aide dans les marchés, parce que les communes, à la différence du département et de la région, c'est 90 communes, donc 80... Enfin, c'est 10 modes de fonctionnement différents. Donc c'est un peu compliqué. Donc on les accompagne dans la composition de leur marché, dans le choix et voilà, et tout naturellement. Et alors le label, c'est un peu pour stimuler les communes à passer, c'est un peu comme
avoir
les étoiles,
ce réflexe.
Voilà, avoir ce réflexe, un peu comme les étoiles, les fleurs au niveau des villes fleuries, quoi.
Sylvain ?
Oui, petite question. Vous l'avez évoqué, la part du bio là-dedans, c'est à peu près quoi ? Et deuxième petite question, la frontière du local, c'est la métropole, la département, la région ?
Alors, tout dépend des produits, forcément, puisque vous avez des produits qui peuvent être considérés locaux, mais qui ne sont pas produits dans la métropole. La métropole, voilà, si on prend les oranges, par exemple, on n'en produit pas en métropole, donc tout dépend des produits, mais c'est avant tout la métropole, et puis après le département et la région de France.
On élargit le cercle au fur et à mesure.
En fonction, ouais.
Elisabeth ?
Au final, ces repas locaux coûtent-ils plus cher ?
Alors, on travaille pour accompagner vous parliez d'accompagnement des communes, on travaille sur le gaspillage, par exemple, sur la composition du repas, la composition des aliments que l'on met dans le repas, pour qu'en définitive, le surcoût qu'on pourrait avoir, je dis bien sur la matière première, eh bien, elle soit gommée par une économie en gaspillage et sur les choix que l'on fait.
Donc, sensiblement le même prix.
Écoutez, moi, pour ma commune, 1100 repas par jour, je n'ai pas de différence en termes de prix de revient par rapport au local.
C'est une belle initiative en tout cas, manger local, faire travailler les 800 agriculteurs qui sont dans cette métropole de Lille. Merci d'être venu nous en parler. Ce label, il sera évidemment présent au trophée de l'avenir d'Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à voter pour la catégorie coup de cœur. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 27 janvier. On vous attend sur europe1.fr. Merci Sylvain d'avoir été notre coach
beaucoup aujourd'hui.
Merci à vous. Merci Elisabeth. On se dit
merci à lundi
pour une nouvelle semaine de La France qui bouge.